Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est 13h, le journal François-Xavier de Calonne. De nombreuses réactions politiques en Tunisie après l'annonce de la dissolution du Parlement, une décision du chef de l'État, 8 mois après le gel des travaux de l'Assemblée. Nous écouterons le président du mouvement État Catholique, l'ancien ministre Khalil Zaouia. Un manifestant a été tué hier au Soudan lors d'une nouvelle manifestation. Des milliers de Soudanais ont de nouveau défilé contre le coup d'État militaire d'octobre et la hausse du coût de la vie. Le 37e jour de l'offensive russe contre l'Ukraine, le président ukrainien indique que l'armée russe se repositionne dans l'est du pays en prévision, dit-il, d'attaques puissantes. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. En France, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a rendu ses conclusions intermédiaires. Elle formule plusieurs recommandations. Son coprésident, le juge des enfants, Édouard Durand, sera l'un de nos invités. La trêve hivernale prend fin ce vendredi. Les associations craignent des expulsions au record. Des réactions politiques en Tunisie après l'annonce par le chef de l'État de la dissolution du Parlement, une décision du président tunisien 8 mois après le gel des travaux de l'Assemblée, décision après que les députés avaient décidé, malgré le gel des activités de l'Assemblée, de se réunir en visioconférence. Le chef du Parlement, Rached Ranouchi, a rejeté cette décision du président, affirmant que l'Assemblée continuera ses activités. Rached Ranouchi qui ajoute que constitutionnellement, le président n'a pas le droit de dissoudre le Parlement. Autre réaction, la présidente du Parti des citoyens libres, Rabir Moussi, demande des élections anticipées d'ici 90 jours, c'est-à-dire dans les délais constitutionnels. Une demande également formulée par le président d'État Catholique, l'ancien ministre tunisien Khalil Zaouia.
Cette décision de dissoudre l'Assemblée est un pas de plus vers une aggravation de la crise politique en Tunisie, qui est devenue inextricable. Tout le processus du 25 juillet est tombé à l'eau, puisque le principe des mesures exceptionnelles, c'était de garder l'Assemblée. Et donc, lorsqu'elle l'a dissous, en considérant que c'était elle le danger suprême, donc c'est en principe toute la procédure légalement, d'après la Constitution, à laquelle il s'est référé, l'article 112, devrait aboutir à des élections au maximum dans les 3 mois qui viennent. Or, il ne semble pas que ce soit ça le fait, le président a dissous l'Assemblée et continue dans son agenda qu'il a préparé et les élections sont reportées au 17 décembre. Donc de fait, aujourd'hui, nous avons un président qui détient tous les pouvoirs exécutifs, bien sûr, législatifs, bien sûr, et même judiciaires, puisqu'il a dissous le conseil judiciaire et il a nommé un conseil provisoire avec des prérogatives où il a toute la mainmise dessus, donc il a des prérogatives de refus et de décider comment gérer la justice actuellement. Car nous sommes dans une situation de pouvoir absolu, personnel, et avec une crise politique qui aggrave la situation financière du pays, qui est au bord du gouffre, puisque les négociations avec le FMI pour financer le budget de cette année n'avancent pas beaucoup et semblent être tributaires d'un accord politique. Donc nous allons au-devant de jours difficiles en Tunisie, et le président de la République assume une responsabilité majeure dans la situation actuelle.
Et vous demandez la tenue d'élections législatives anticipées dans les 3 mois ?
C'est la logique. Il s'est contredit en 48 heures. Il y a 3 jours, il a dit en public, à la télévision, « Je ne peux pas dissoudre l'Assemblée parce que la Constitution ne le permet pas. » 48 heures après, il a dit « La Constitution m'autorise à dissoudre l'Assemblée. » Donc il interprète la Constitution selon ses propres desiderata. Et ça, ce n'est plus un état de droit. Donc nous sommes devant un pouvoir absolu qui fait ce qu'il entend. Et il y a des députés qui ont assisté à cette réunion non présentielle. C'est une réunion non présentielle. Il y a 35 députés, semble-t-il, qui ont été convoqués devant le pôle antiterroriste.
Ces députés demain, qui avaient organisé mercredi dernier cette séance virtuelle.
Oui. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a 5 noms. Mais il semblerait qu'il y en a beaucoup plus. De toute façon, même si c'est une personne, c'est déjà gravissime que les gens soient accusés d'atteinte à la sûreté de l'État et convoqués devant le pôle antiterroriste. Ce n'est pas un acte terroriste quand même. Donc voilà, nous vivons une situation très difficile et inextricable. Et la logique veut que le président de la République annonce des élections à court terme avec une révision de la loi électorale rapidement, ce qui peut se faire rapidement, en 15 jours. Une loi, on a déjà une loi, donc il suffit de la réviser de manière consensuelle. Ou bien, s'il veut prolonger dans son agenda jusqu'au mois de décembre prochain, les élections, il les avait prévues au mois de décembre, 17 décembre, avec d'abord un référendum le 25 juillet sur la réforme des textes, je ne sais pas quel texte, on ne sait pas quel texte il veut changer, et le référendum concerne, est-ce qu'il concerne la Constitution, ou est-ce qu'il concerne uniquement les textes qui gèrent la vie politique, c'est-à-dire la loi électorale, la loi sur les partis, et les financements, et les médias, ainsi de suite, on n'en sait rien. Tout ça se passe à Carthage, et on n'a aucune idée, le peuple n'a aucune idée. Ou bien il ouvre un débat national, avec un processus de débat, où tous les partis, toutes les organisations nationales y participent, et comme ça, les gens pourraient accepter qu'il y ait un processus de révision de la vie politique en Tunisie, et pourquoi pas même de la Constitution en ce qui concerne la répartition des pouvoirs et la place du président de la République, pourquoi pas. Mais comme ça, on va devant une inconnue, et la situation ni politique, ni économique, ni sociale ne le permet. On a des pénurie de produits alimentaires. Ça a commencé avant la guerre de l'Ukraine. Ça va s'aggraver encore plus avec le début du mois de Ramadan. Nous sommes dans une situation très, très difficile.
Le président d'État Katol, l'ancien ministre tunisien Khalil Zaouia. Et le président tunisien a indiqué hier soir que des élections législatives ne pourraient pas se tenir dans un délai de 3 mois. Une déclaration lors d'une réunion avec la première ministre Najla Boudane, selon une publication diffusée sur le compte Facebook de la présidence tunisienne. Un manifestant a été tué hier au Soudan lors d'une nouvelle manifestation. Des milliers de Soudanais ont de nouveau défilé contre le coup d'État militaire d'octobre et la hausse du coût de la vie. Cette nouvelle victime porte à 93 le nombre de personnes tuées par la répression meurtrière des manifestations depuis l'arrivée au pouvoir du général Abdel Fattah Burhan le 25 octobre dernier. Un coup d'État, une violence largement condamnée à l'échelle internationale. 51 personnes détenues dans le cadre du mouvement de protestation du Irak en Algérie ont été remises en liberté. Des libérations dans l'attente de leur procès à la suite des poursuites engagées. Une annonce du Comité national pour la libération des détenus. L'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le président ukrainien assure que l'armée russe se repositionne dans l'est du pays en prévision, dit-il, d'attaques puissantes, notamment sur le port assiégé de Mariupol, là où doit avoir lieu aujourd'hui une nouvelle tentative d'évacuation de civils. La Russie a annoncé cette semaine qu'elle entendait réduire son activité militaire autour de Kiev et de Tchernihiv pour concentrer ses frappes vers les régions séparatistes de Donetsk et de Louhansk dans l'est du pays. En France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a rendu ses conclusions intermédiaires. Elle formule plusieurs recommandations. Entretien avec son coprésident, le juge des enfants, Édouard Durand.
Le sujet que nous devons traiter, ce sont toutes les violences sexuelles faites aux enfants, notamment l'inceste. Mais la CIVIS est aussi une commission tout à fait particulière, unique en son genre en réalité, puisque nous avons compris, dès que nous avons lancé l'appel à témoignage le 21 septembre 2021, que notre vocation était de recueillir la parole des femmes et des hommes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Et en quelques mois, nous avons reçu plus de 11 000 témoignages. Nous sommes donc devenus un espace de rassemblement, un espace de solidarité entre les victimes et un espace où la société les reconnaît et reconnaît leurs paroles, où la société leur dit « c'est donc tout cela ce que vous avez vécu. Vous avez vécu toutes ces souffrances à ce point. »
Cet espace de solidarité entre les victimes, cette solidarité, comment se traduit-elle ?
Elle se traduit d'une manière très expressive et je dois dire magnifique, qui m'impressionne toujours beaucoup, qui me touche. Notamment dans nos réunions publiques. Chaque mois, nous nous déplaçons dans une ville de France et nous organisons une réunion publique où s'inscrivent des personnes, des femmes, mais aussi des hommes. Et ces personnes sont 100, 150, 200 personnes, comme au Palais de la Femme il y a quelques jours à Paris. Et pendant 2 heures, le micro passe de main en main dans une grande bienveillance, une grande écoute et une grande solidarité. C'est très fort. Et lorsque nous avons lancé l'appel à témoignage, il y a 6 mois maintenant, beaucoup de personnes ont dit, dans les premières heures de cet appel, « J'ai attendu ce moment toute ma vie. »
Et vous avez donc rendu vos conclusions intermédiaires. Est-ce que vous pouvez nous faire part des différentes préconisations et des différents axes?
Nous avons 4 axes fondamentaux dans notre travail, qui sont le repérage des enfants victimes, le traitement judiciaire des violences sexuelles, la réparation incluant le soin et la prévention. Le repérage avant la prévention parce que malheureusement nous vivons dans un monde où des enfants sont victimes de viols et d'agressions sexuelles. La priorité c'est d'aller les chercher pour les mettre en sécurité. Et dans ces 4 axes, nous avons défini des préconisations qui sont réalistes, réalisables et qui vont générer plus de sécurité pour les enfants. Et je peux en dire quelques-unes ici. D'abord le repérage systématique, parce que l'agresseur impose le secret à l'enfant. Il lui dit « si tu parles, je vais te tuer. Si tu parles, personne ne te croira. Si tu parles, la famille va exploser. » Et donc nous ne pouvons plus attendre que l'enfant devienne un adulte et révèle les violences qu'il a subies. Il faut aller chercher sa parole pour le protéger. C'est le repérage systématique. Tout professionnel, une institutrice, un professeur, une psychologue, une éducatrice, tout professionnel doit poser à tous les enfants la question des violences subies. Et puis nous préconisons aussi l'obligation de signalement pour les médecins. Parce que lorsque on pense qu'un enfant est victime ou qu'il peut être victime de violences sexuelles, il faut le protéger. Il faut signaler la situation au procureur pour mettre en œuvre les mesures de protection. Voilà 2 préconisations très précises qui sont très importantes pour augmenter notre capacité de protection.
Vous avez été surpris par l'ampleur des témoignages. Vous évoquez plus de 11 000 témoignages en quelques mois.
Oui, ce qui est très important lorsqu'on écoute ces témoignages et lorsque l'on comprend que la société a conscience de la réalité de la vie des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, c'est l'ampleur de ces violences. Et l'ampleur, c'est toujours 2 choses. C'est le nombre et c'est la gravité. C'est-à-dire que 5,5 millions de personnes dans la population adulte en France ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. C'est un nombre extrêmement important. C'est-à-dire aussi que ces personnes nous parlent d'un présent perpétuel de la souffrance. Non pas d'un mauvais souvenir, mais d'un présent perpétuel. D'une souffrance physique et psychique qui est toujours contemporaine, qui habite leur vie. Et pour cela, l'une de nos préconisations est que tous les enfants victimes, et y compris les adultes qu'ils deviennent, bénéficient de soins spécialisés en psychotrauma. Car ces soins existent et ils permettent d'apaiser les souffrances.
Et vous soulignez que 9 victimes sur 10 sont aujourd'hui des filles.
Oui, les violences sexuelles sont une forme de violence sexuée. Comme le dit la Convention d'Istanbul, les violences domestiques affectent de manière disproportionnée les femmes et les filles. Et les viols, les agressions sexuelles sont commis massivement par des hommes contre des femmes. Lorsque les victimes sont des enfants, la proportion de garçons est plus importante que la proportion d'hommes victimes à l'âge adulte. Mais cela reste des violences sexuées.
Et les enfants en situation de handicap sont plus vulnérables également?
Oui, oui. Vous savez, dans la stratégie de l'agresseur, il y a toujours une première étape qui est rechercher sa proie en raison de sa vulnérabilité. L'enfant est particulièrement vulnérable et les enfants handicapés sont plus vulnérables encore, plus fragiles, plus en difficulté pour exprimer leurs paroles et leurs émotions. Et dans la situation des enfants handicapés, il y a un problème supplémentaire auquel la Civise attache une grande importance et qu'elle veut résoudre, c'est le fait qu'il y a un déni supplémentaire encore. Une incapacité plus grande encore de la société à penser la réalité des violences sexuelles faites aux enfants handicapés et la nécessité de les protéger. Donc il y a à la fois une survictimation et une sursilenciation.
Et vous évoquez le profil des agresseurs, c'est la plupart du temps une personne qui semble être au-dessus de tout soupçon.
Oui, les violences sexuelles sont commises par des agresseurs qui viennent de tous les milieux, de tous les contextes sociaux, culturels, et qui ont toujours une stratégie que l'on retrouve dans tous les récits des témoignages des victimes. Il recherche sa proie, il l'isole, il crée un climat de peur et de terreur, il passe à l'acte, il inverse la culpabilité, il impose le silence, il recherche des alliés pour assurer son impunité, quel que soit le milieu dans lequel il vit. Et il y a toujours un rapport de domination. La violence sexuelle, comme toute violence, est toujours le refus de la relation. La violence, c'est toujours s'approprier le corps de l'autre et faire du corps de l'autre un objet.
Le juge des enfants, Édouard Durand, co-président de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, son dernier ouvrage, Défendre les enfants, la mission d'un juge, aux éditions du Seuil. Et les victimes de violences sexuelles pendant l'enfance peuvent témoigner en appelant du lundi au vendredi de 10h à 19h le 0805 802 804 en métropole et le 0800 100 811 depuis l'outre-mer. La fin de la trêve hivernale aujourd'hui, cela signifie que les propriétaires et les bailleurs sociaux vont pouvoir expulser des locataires. Les expulsions concernent notamment les personnes en impayé de loyer, mais aussi des bailleurs ou les propriétaires qui donnent congé aux locataires pour vendre le bien ou l'habiter eux-mêmes. La trêve hivernale a eu lieu du 1er novembre au 31 mars et c'est la première fois depuis que le Covid-19 circule en France que la trêve hivernale n'est pas prolongée. Les associations craignent cette année des expulsions records. La Grande Mosquée de Paris confirme que l'habituelle nuit du doute déterminant le début du mois de Ramadan en France se déroulera ce soir à la Grande Mosquée. Une commission religieuse formée de représentants et d'imams de plusieurs fédérations musulmanes nationales se réunira avant l'annonce faite en début de soirée. Vous êtes bien sur Radio Orient. À 14h30, votre journal en langue arabe. À 18h, votre journal en langue française. Et l'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Bali Bagayoko, chef de file de la France Insoumise à Saint-Denis et soutien de Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, émission présentée par Loïc Barrière. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 13h17.